Ressenti.
Partagé.
Bouger.
Chef, assume, un crumble.
Ressenti. Bonjour à tous, je suis Caroline Chadal, co-dirigeante de l'agence Communicante. Pour ce troisième podcast Ondes Immersives, nous nous interrogeons sur un point central. Comment écoute-t-on aujourd'hui? Avec le développement du digital, de nouveaux outils sont à la disposition des communicants, marketeurs et chercheurs, de l'eye tracking à la réalité virtuelle. Comment ces technologies permettent-elles de mieux comprendre les consommateurs, et notamment en consommation durable? Quelles sont les nouvelles possibilités qu'elles ouvrent et quelles sont leurs limites? Véronique Spalletta de l'agence Communicante a rencontré Cindy Lombard, enseignante à Audencia Bachelor Nantes, lors d'un atelier dédié à la réalité virtuelle. Ses étudiants ont testé un dispositif d'analyse des comportements par immersion dans un supermarché virtuel. Ouvrez grand vos oreilles, on vous emmène.
Bonjour.
On va passer à la pratique, être maître dans le magasin virtuel.
Okay.
Donc là, je m'occupe de mettre les trackers, ce qui va permettre de détecter la position de tes chevilles et donc d'avoir un avatar complet, c'est-à-dire que tu vas avoir un corps qui t'incarne. Je te laisse mettre le casque au niveau de tes yeux.
Là, c'est bon, je pense.
Et on va lancer l'expérience.
D'accord.
Alors, comme tu vois, sur ta gauche, tu as un miroir. Si tu peux te regarder dans le miroir, je vais adapter ta taille parce que tu es un peu trop grand. Hop, voilà. Tu peux voir, tu peux bouger ton pied gauche. Là, t'es en train d'attraper des tomates.
Oui. Ah non, c'est pas de saison. Non, c'est très mauvais, ça. Les carottes, elles ont moins la même forme, j'avoue. Bah, du coup, je vais en prendre une.
On arrive vraiment à voir quand on saisit le produit et quand on peut le mettre dans son panier. La réalité virtuelle se rapproche énormément des magasins, notamment avec tout ce qui est les indications prix ou les packaging produits, ce sont des vrais packaging.
Généralement, mes tomates, j'ai choisi par rapport à la couleur. Mais là, je trouve ça pas très réaliste parce qu'elles ont toutes la même couleur. Il y en a juste soit des petites, soit des grosses.
Ressenti.
La réalité virtuelle est une tendance actuelle forte, mais qui va être amenée à perdurer. Donc autrement dit, les consommateurs se disent que oui, ils vont être amenés à être confrontés de plus en plus à la réalité virtuelle, qu'elle va faire partie de nos vies en tant que consommateurs ou en tant que professionnels.
Bonjour Cindy Lombard, merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux d'Audencia Bachelor. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter le sens de vos travaux ?
Bonjour, Cindy Lombard, professeure de marketing au sein d'Audencia Bachelor. J'y enseigne, je fais aussi la recherche. Et en fait, les travaux sont surtout destinés à comprendre le comportement du consommateur. Qui est-il ? Que veut-il ? Quelle est la différence entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, et tout ça dans un univers spécifique qui est celui de la distribution et encore plus spécifiquement l'alimentation. J'ai commencé mes travaux avec tout ce qui est magasin réel et maintenant, en plus de ça, je suis passée au magasin virtuel avec l'idée de mixer tout ça dans une logique d'omnicanalité. Souvent, je dis aux étudiants, ça se divise en trois, un consommateur, ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. C'est ça qui m'intéresse le plus. La technologie, je l'utilise beaucoup en termes de recherche, mais j'essaye aussi de la mettre dans la pédagogie. C'est-à-dire qu'on essaye de sensibiliser nos étudiants du bachelor à la réalité virtuelle, hein, parce qu'on est conscients, persuadés que c'est un outil qu'ils vont devoir, eux, utiliser, soit en tant que manager, soit en tant que consommateurs, que c'est une façon de les sensibiliser à l'importance de se tenir au courant des évolutions des technologies et de se l'approprier. Cette année, on a fait passer près de 500 étudiants individuellement dans ce casque de réalité virtuelle.
Le magasin ici dans lequel vous allez être immergé n'est pas lié pour le moment à un métavers. Comme dans ce multi-univers, vous pourriez ouvrir une autre salle, une autre porte qui vous mènerait par exemple vers un concert. Ces nouvelles technologies vous sont à vous principalement destinées, donc ce qu'on appelle la Gen Z, hein, très concrètement, mais que même dans l'absolu, c'est ceux après vous qui vont être les plus confrontés à ça, ce qu'on va appeler les alphas. Donc autrement dit, on est d'accord que c'est sur un phénomène qui va toucher les plus jeunes. En fait, on se rend compte que les magasins ne sont plus si bien évalués que ça. C'est-à-dire que c'est plus les endroits dans lesquels vous aimez aller passer du temps, etc. Vous avez en fait l'idée des fois de vous détourner un peu des magasins et que justement, ben, le fait d'intégrer des nouvelles technologies comme le live shopping ou la réalité virtuelle, ça pourrait potentiellement permettre de réenchanter une expérience. Donc l'idée, c'est d'aller vers un terme que vous avez déjà entendu certainement, qui est d'un parcours omnicanal où vous pourriez très bien passer d'un magasin pour faire vos achats à un téléphone portable, à un ordinateur et éventuellement ben, coiffer un casque de réalité virtuelle pour pouvoir ben, faire vos achats dans ce type de magasin. L'idée de la réalité virtuelle, c'est pas de supprimer les magasins, le drive, etc. C'est de rajouter un canal qui peut plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Prenez les IKEA par exemple. Tout le monde n'a pas un IKEA près de chez soi. OK, alors on peut l'avoir via le drive, mais on pourrait très bien se dire ben je vais avoir la facilité de me projeter dans un magasin virtuel IKEA qui est loin de chez moi, c'est plus proche de le faire en virtuel. Et en plus de ça, ben là je vis vraiment une expérience avec les expositions, des meubles, etc., pas juste un scroll de produits. Donc l'idée de cette logique d'omnicanal, c'est d'avoir le canal le plus approprié par rapport à ce que la personne veut. Et aussi au moment de son achat. Vous avez par exemple Decathlon qui vous permet de le mettre pour essayer de vous rendre compte les tentes quechua, etc., qui sont proposées. Ben, là aussi, hein, pareil, pour exposer ça, il faut une surface phénoménale. Donc la réalité virtuelle ben, vous permet de ben, voir les tentes, de vous projeter dedans.
Cindy, pouvez-vous nous raconter comment vous utilisez ces nouvelles technologies dans vos travaux ?
Ce que l'on va chercher dans le virtuel, c'est une flexibilité et une rapidité dans les modifications qu'on peut y apporter pour étudier comment le consommateur va réagir à différents stimuli. Alors bien évidemment, on peut aller en magasin réel. Hein. Par contre, c'est pas toujours si évident que ça. Il faut l'accord des distributeurs qui peuvent être des fois un peu réticents à l'idée de ben, vous allez peut-être déranger un peu leurs consommateurs en leur posant des questions, les observant. Et puis le problème aussi, c'est que vous ne contrôlez pas tout l'environnement qui est autour de vous. Par exemple, si vous voulez étudier des plans d'implantation différents, ben, ça veut dire qu'il faut ben, des bras hein, pour bouger tous les produits et changer les plans d'implantation. C'est pour ça que les magasins virtuels sont assez sympathiques. Ça permet d'utiliser beaucoup de choses et de modifier les choses beaucoup plus facilement. Par exemple, ici, avec Maxence, on a fait une étude pour la société ben, Memco. C'était une étude sur les packaging et sur la publicité sur le lieu de vente PLV. Ben, en fait, Maxence, en quelques claquements de doigts, ben, il a changé le magasin complètement avec des nouveaux produits, des nouvelles implantations, des nouvelles PLV. C'est beaucoup plus facile à le faire dans la réalité virtuelle. Avec la réalité virtuelle, on a un énorme contrôle quand on étudie quelque chose.
Il y a effectivement ce qui est permis par ces technologies, mais du coup, comment elles s'incluent plus globalement dans les programmes de recherche ?
On n'est pas trop dans une logique de remplacement, mais plutôt dans une logique de complémentarité. C'est-à-dire que chaque outil a ses avantages, chaque outil a ses inconvénients, ce qui fait qu'on est plus dans une logique de les mixer ensemble pour essayer d'avoir une compréhension, je vais dire, totale. Donc autrement dit, quand je regarde par exemple la réalité virtuelle, je le disais, il y a le côté contrôle et c'est flexibilité qui est très intéressant. On a aussi des informations grâce à l'eye tracking sur ce que le consommateur, allez, ce qu'il regarde, ce qu'il fait. C'est peut-être déjà là un peu plus objectif que quand on est dans un vrai magasin. On n'aura pas la précision qu'on peut avoir dans le virtuel. Par contre, le virtuel seul n'est pas suffisant. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est que on le couple à ce que je vais appeler une bonne vieille technique, qui est un questionnaire, et essayer de combiner ça par rapport à ce qu'il a déclaré, et essayer de voir si on a éventuellement des écarts ou pas entre ce qui a été déclaré et ce qui a été fait, essayer de comprendre les deux. Et s'il y a des écarts, là, à nouveau, on peut aller vers une technique, on va dire, un peu classique, qui est une étude qualitative pour refaire parler le consommateur et nous aider, grâce à lui, à comprendre ben, ce qu'il a fait, à nous éclairer sur les réponses qu'il nous a apportées.
Partager.
Avez-vous des exemples précis d'enseignements qui ont été permis par ces technologies et d'évolutions qui ont été mises en place à la suite dans la vie réelle.
Avec des collègues de l'école centrale Nantes et des collègues d'Audencia Bachelor, on a commencé à travailler sur ça en essayant d'injecter des fruits et légumes dans la réalité virtuelle, ce qui n'est pas souvent le cas. Et puis souvent, ben, c'est des fruits et légumes qui sont très semblables, c'est des photographies multipliées à l'infini et c'est pas très réaliste. En plus de ça, on s'intéressait aussi à tout ce qui est difformité dans la présentation des produits, dont les fruits et légumes, qui peuvent avoir, ben, par exemple, des fois des formes qui sont différentes de ce qu'on pourrait appeler un standard. En fait, souvent, les consommateurs les traitent de moches. Et en fait, on a voulu essayer de comprendre ça. Et c'est pour ça que ça représentait un challenge qui nous intéressait dans la réalité virtuelle, parce qu'il fallait pouvoir les représenter dans la réalité virtuelle. Ça nous intéressait aussi, d'un point de vue marketing, de comprendre les consommateurs quand ils sont confrontés à un difforme. Et on s'est rendu compte que les consommateurs ne voulaient pas du tout standard ou du tout déformé, qu'il y avait un juste milieu à trouver. Et ce qui nous a vraiment intéressé aussi, c'est qu'on a retrouvé les mêmes résultats en réel et en virtuel. Et ce qui nous a aussi intéressé, c'est de se rendre compte que les consommateurs étaient preneurs d'un certain réalisme dans les fruits et légumes qu'ils achetaient, vu qu'en fait, ce qui vient de la nature peut être déformé. Et puis aussi, qu'ils étaient prêts à accepter des produits qui n'étaient pas parfaits. Et on s'est rendu compte que les consommateurs qui étaient ouverts à ça, dans l'absolu, en termes de valeur, on a fait appel à Schwartz, c'est les consommateurs qui étaient les plus ouverts au monde et aux autres. Ce magasin, on continue à l'utiliser pour essayer de mieux comprendre ce que les consommateurs font en termes de, je vais appeler, produits responsables. Et par rapport à ces produits, souvent, ce que l'on manipule, c'est les informations que l'on donne aux consommateurs sur le pack, sur les affiches. Ça peut être la place qu'on va leur accorder dans le rayon et aussi les informations qu'on peut mettre dans le rayon, les affiches pouvant, par exemple, sortir du rayon sous la forme de totem, par exemple.
Bouger, bouger.
Alors, la réalité virtuelle, une révolution de fond ou une tendance éphémère? Les étudiants d'Audencia Bachelor nous partagent leur avis de futurs communicants, mais aussi de consommateurs.
En termes du coup du magasin, je trouve que ça manque quand même tout de même de choix par rapport à un magasin physique. Ça manque de lisibilité sur les produits en termes tout ce qui est produits bio ou pour lire un petit peu les annotations qu'il y a si c'est des produits régionaux ou ce genre de choses. Les points positifs, c'était plutôt le prix au-dessus du panier. Plus les années passent, plus les habitudes de consommation des consommateurs évoluent. Enfin, nous, en tant que marketeurs, ça nous aide à comprendre ces consommateurs pour essayer aussi d'y répondre avec de nouveaux enjeux.
Ça va permettre du coup vraiment d'avoir des avis, pouvoir faire remonter, corriger, voir vraiment axer les axes d'amélioration justement de ces outils qu'on va pouvoir vraiment derrière les réutiliser. Donc aussi bien pour plus tard ou justement dans les marques et les produits.
Ça peut permettre aussi de se différencier de la concurrence.
Dans ce podcast, on s'intéresse à la transition agricole et alimentaire, avec tous les enjeux qu'il y a autour de nouveaux modes de production et de consommation. Selon vous, à quoi du coup cette technologie de réalité virtuelle, elle peut servir pour aller plus loin dans cette transition ?
Je sais que les consommateurs et nous en général, on a ce besoin de transparence et cette quête d'information. Donc je pense que la réalité virtuelle, ça peut aussi vraiment nous montrer d'où viennent les produits. Et on peut peut-être avoir plus d'informations sur les producteurs et sur les produits qu'on consomme.
On a vu du coup Alice et Victor choisir des fruits et légumes tout à l'heure. Moi j'ai observé quand même qu'ils prenaient le fruit ou le légume le plus parfait et je trouve que justement c'est un peu contraire à la transition écologique. Et je trouve que justement dans la réalité virtuelle, on va être plus attiré par la perfection du fruit, du légume.
Au lieu de faire un magasin virtuel qui ressemble plutôt à une grande surface lambda, plutôt comme faire comme un petit marché couvert avec que des producteurs locaux pour justement les mettre en avant.
Qu'est-ce que vous, qui êtes des futurs communicants et marketeurs, qu'est-ce que vous voudriez pouvoir écouter ou mesurer dans le futur ?
Qu'est-ce qu'on lui apporte et qu'est-ce qui lui apporte une satisfaction aussi ? Ils apprécient quand une marque, une entreprise, leur apporte quelque chose d'un point de vue marketing, par exemple marketing sensoriel, expérientiel, etc.
Je pense que en tant que marketeur, effectivement, nous, notre intérêt, c'est d'avoir le plus d'informations sur le client pour pouvoir proposer une offre hyper personnalisée et après proposer des actions promotionnelles ciblées, par exemple. Après, c'est vrai qu'en tant que consommateur, bah, du coup, c'est... Enfin, personnellement, moi, c'est des... Je trouve ça un peu dérangeant de me sentir analysée et de, qu'on récolte autant de données et qu'on sache autant de choses sur mes habitudes d'achat. Donc, d'un point de vue marketeur, évidemment que bah, ça va nous intéresser. Après, en tant que consommateur... ça fait un peu plus peur, quoi.
Je trouve qu'on est de plus en plus dans un monde un peu, pas hypocrite, mais qui prend un peu deux tendances. Il y a une tendance qui va vraiment vers le high-tech et tout ce qu'on a vu, là, les NFT, la réalité virtuelle, tout ce côté technologie. Et je trouve qu'il y a aussi une autre partie qui va vers le plus vrai, vers plus aller dans la sociabilité. En fait, je suis pas forcément... pour cette méthode, parce qu'on se coupe encore plus du monde réel. Et c'est vrai que je préférerais, moi, par exemple, aller voir les producteurs en face à face, ou aller voir, même juste dire bonjour au caissier ou des choses comme ça. Voilà, je trouve qu'il y a un peu deux tendances qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier l'autre aussi, d'une recherche un peu plus de vraie vie, quoi.
Mettez vraiment le doigt sur les questions que nous, on se pose et des choses que nous, on a déjà étudiées ou qu'on veut continuer à étudier. En termes de technologie, on n'y est pas encore. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les magasins virtuels qui existent à l'heure actuelle et qui sont beaucoup dédiés à la recherche, donc autrement dit, pas pour que les consommateurs y fassent leurs courses. On a souvent des magasins où vous n'avez que la face avant du packaging, vous n'avez pas le reste du packaging. Si vous voulez l'acheter, vous le touchez, mais vous ne pouvez pas le prendre et le tourner et lire les informations. Vous n'avez pas de panier. Autrement dit, vous ne savez pas exactement ce que vous avez acheté, le voir. Alors que nous, on a voulu vraiment coller à la réalité en proposant toutes les phases du pack, en proposant un panier. Et puis après, c'est de travailler aussi sur tout ce qui est le côté sensoriel. Où là aussi, il y a plein de choses à faire avec des nouvelles technologies qui existent pour permettre de sentir l'appréhension des produits que vous touchez, comme les fruits et légumes, pour avoir de la musique aussi dans le casque. Il y a des casques aussi maintenant qui peuvent vous envoyer des odeurs pour mieux vous immerger. Et puis le côté personnalisation, quand vous dites « on aimerait bien avoir des infos » sur les produits que l'on achète, ou par exemple que le magasin qui soit proposé ait son propre plan de masse. Par exemple, si vous ne faites pas de course pour les animaux parce que vous n'en avez pas, ça n'apparaîtrait même pas ces rayons-là dans votre magasin. Côté positif, comme vous le disiez, c'est ça s'adapte à vous. Côté négatif, c'est ce que vous disiez aussi, c'est que pour faire ça, on a besoin d'informations pour vous. Et qu'il faut que vous soyez d'accord que l'on obtienne ces informations et que l'on les exploite.
Cindy, on arrive à la fin de cette interview. Avez-vous des messages à adresser aux responsables communication et marketing du secteur agri-agro qui nous écoutent ? Ou avez-vous simplement envie de leur partager vos convictions et ce en quoi vous croyez ?
Moi, j'avoue que la réalité virtuelle, j'ai découvert ça récemment, que c'est venu compléter des choses que je faisais déjà dans le passé. Et en fait, j'en vois maintenant tous les apports et tous les intérêts pour justement comprendre le consommateur. Et je me dis que là, il y a vraiment quelque chose à faire pour les marques, pour les enseignes, que c'est une nouvelle technologie qu'ils doivent s'approprier eux pour aider le consommateur à se l'approprier lui, que les marques auraient tout bénéfice à y investir et que nous, chercheurs, on est là pour les aider et pour essayer de répondre aux questions qu'ils se posent, d'apporter des réponses pour arriver ensemble à une proposition qui soit satisfaisante pour le consommateur en termes d'expérience et aussi satisfaisante pour les marques, les enseignes en termes d'études que l'on pourrait mener. Grâce à ça, on peut offrir aux consommateurs la possibilité de découvrir tout un tas de nouvelles offres qu'on ne pourrait pas lui montrer en réel.
Et vous qui nous écoutez, partagez vos témoignages et vos réflexions sur les réseaux sociaux de Vibration Communicante. Dans quelques semaines, vous découvrirez le prochain épisode de notre podcast Ondes Immersives. À bientôt !